Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, forum sur l'alternance à Digne le 27 avril, en direction des jeunes pour un avenir prometteur sur le 04, le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. L'association Espoir 04 ouvre une plateforme de soutien pour tous les aidants à Manosque. Sa vocation est départementale, nous entendrons le président d'Espoir 04, Georges Gégaud. La mairie de Digne a effectué une première rencontre avec les Dignois autour du chantier du plan d'eau des Ferréoles. Odile Frison a suivi la visite. Le 9e trail de Haute-Provence est en préparation. Chris Alessandri a interviewé le grand ordonnateur de la course, Vincent Gigliani. Enfin, même si ce n'est pas encore très net, les beaux jours arrivent. Il est temps de penser randonnée et nous écouterons les propositions d'un accompagnateur. Arnaud Poupouneau offre ses services du Contadour de Giono jusqu'au Grand Nohant. Un forum départemental à Digne pour promouvoir l'alternance.
Mercredi 27 avril à 13h aura lieu un forum départemental de l'alternance au Palais des Congrès de Digne-les-Bains. Une rencontre mettant à l'honneur l'emploi et l'économie sur le 04, plus particulièrement en direction des jeunes. C'est l'occasion pour les professionnels de l'emploi de se réunir et de proposer leurs services sur le département. Ce forum s'inscrit pleinement dans son rôle de facilitateur de mise en relation entre l'offre et la demande et de promotion des contrats en alternance. Un événement d'envergure pour répondre au mieux à l'enjeu que représente ce dispositif sur les territoires bas-alpins. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les publics qui pourront rencontrer les principaux acteurs de l'alternance, centres de formation ou organismes de conseil à l'orientation et à l'emploi, comme les organisations professionnelles, et ainsi construire un véritable projet d'apprentissage ou de professionnalisation. L'objectif final est de promouvoir l'alternance et de finaliser concrètement des recrutements. Chargée de communication à la mission locale des Alpes de Haute-Provence, Camille Rejouan présente l'événement au micro de Chris Alessandri et précise sa mission.
Au niveau départemental, je mets en évidence tous les événements que la mission locale fait pour les jeunes, car c'est un organisme finalement d'insertion professionnelle qui mobilise ses partenaires pour justement mettre dans le marché de l'emploi ou de la formation les jeunes de notre département. Donc moi, le but, c'est vraiment de promouvoir tous les événements dans les réseaux sociaux, d'aller filmer ou monter des vidéos sur les événements qu'ils font, de prévoir les événements, et puis bien sûr, tout ce qui est dans la recherche de partenaires. Mais voilà, en gros, mettre vraiment en évidence tous les événements que la mission locale fait pour les jeunes.
Ça veut dire mettre en place une logistique où il faut vraiment tout positionner, en même temps penser un peu à tout, quoi.
Exactement. Il faut avoir un œil sur tout ce qui se passe au niveau départemental, toujours être dans la relation avec les partenaires, les rencontrer. J'ai pris mes Fox en fait en janvier, donc il faut aussi connaître tous les dispositifs que l'on fait. Surtout dans le 04, il y a des besoins qui sont spécifiques concernant la mobilité, par exemple, le logement. Donc voilà, on a vraiment une vision satellite de tout ce qui peut se passer pour que les jeunes puissent rentrer en insertion. On fait des ateliers collectifs avec les conseillères et les jeunes pour justement apprendre à comment faire un CV, une lettre de motivation, apprendre à faire un entretien avec un professionnel. Tout ça, en fait, on met en évidence. Et moi, mon métier, c'est justement de le communiquer aux jeunes.
Quand on dit jeune, la fourchette, c'est quoi? Comment la définir?
Alors, la mission locale s'occupe des jeunes entre 16 et 25 ans dans l'insertion professionnelle de ces jeunes-là. Donc, à la sortie, par exemple, du lycée ou à la sortie du collège. Puis après, ça peut être des personnes qui sont encore au chômage, qui recherchent de l'emploi ou bien qui veulent trouver une formation. Et même, ça peut concerner des jeunes qui recherchent justement à se déplacer, à trouver un logement, voilà, avec tous nos partenaires justement. Tout ça dans l'insertion professionnelle et la formation.
Comment sont-ils ces jeunes que vous rencontrez, qui vous abordent? Sous quel angle vous pouvez arriver à avoir une amorce avec eux?
Alors justement, c'est vraiment la problématique qui se pose aujourd'hui, car les jeunes aujourd'hui sont vachement sur les réseaux sociaux et on se base vraiment sur ça pour les attirer. Donc au niveau régional, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis sur Twitch, la chaîne de gamers, où on propose à des jeunes en ingénieurs civiques, donc on engage en fait dans la mission locale, à venir parler aux jeunes. En fait, on fait pour les jeunes, par les jeunes. Donc je vous parle de cette chaîne, c'est la bonne idée. En fait, Compte c'est vraiment installer un studio avec des lives Twitch. Et là-dessus, on invite des partenaires et des entreprises et nos jeunes du service civique vont parler à ces gens-là et vont eux-mêmes animer la chaîne. Par exemple, la dernière fois, on a eu un entretien d'embauche en jouant à League of Legends. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de toucher les jeunes. On va essayer de capter là où ils sont. Et c'est vrai qu'au niveau régional, notamment à Aix, à Grasse ou à Cannes, on a des studios qui permettent justement de vraiment les cibler. Nous, après, au niveau du 04, on va installer ce studio. Et ensuite, oui, on utilise Instagram, on utilise... LinkedIn et Facebook, pas vraiment, hein, mais surtout Instagram. Il y en a qui utilisent TikTok, mais voilà, à faire avec parcimonie. Donc le but, c'est vraiment d'engager des jeunes au service civique à la mission locale, créer une équipe, et c'est eux qui iront en fait directement à la rencontre des jeunes. Parce que rien de tel qu'un jeune qui parle à un jeune. Là, ça parle.
Bon, il y a un profil effectivement du jeune, mais il faut s'intéresser à chaque identité, hein. Chaque jeune a son identité et à sa demande.
Exactement. Et surtout que nous, on travaille donc avec la région, mais chaque département a des besoins donc spécifiques aussi. On a des jeunes qui vont plus traîner quelque part que dans le 13 ou dans le 84. Hein. Il faut aussi s'adapter avec les événements qu'on fait localement à la demande des jeunes. Et c'est pour ça que oui, rien de tel qu'un jeune qui parle à un autre jeune. Ils ont le même langage, le même jargon, ils connaissent vraiment les mêmes choses. On a vraiment une homogénéité sur les besoins des jeunes aujourd'hui, et notamment dans le 04, et il faut savoir les toucher. Et la mission locale a besoin de ça, de justement trouver comment on peut les mobiliser. Donc on en parle avec les conseillers pour voir un petit peu les besoins, comment on pourrait les mobiliser, tout ça. Et moi, quand je vais dans les événements, je les interview. Et ils sont tous à fond.
Camille Rosevoix, prochainement un rendez-vous que vous fixez, une rencontre.
Oui, en effet, parce que si vous cherchez là une alternance, c'est le moment. Le 27 avril à 13h aura lieu donc le forum départemental de l'alternance à Digne-les-Bains au Palais des Congrès. Si vous avez donc des soucis de mobilité, pas de soucis, vous avez qu'à venir sur notre site internet et vous verrez donc les horaires de navettes qui iront sur les grands axes du département. Si vous êtes à Oraison, Fort-Calquier ou à Sisteron, voilà, vous pourrez vous déplacer grâce aux navettes à Digne-les-Bains. Il n'y aura aucun souci. On vous attend.
Au programme de cette journée, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un circuit à respecter. Comment ça se concrétise?
Comment ça se concrétise? Eh bien, écoutez, sur chaque stand, auprès de chaque exposant, il y aura des contrats à saisir. Donc, si vous voulez, il y aura avec nous des centres de formation, il y aura Subalternance, le CFPP à Carmejane et la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, c'est eux aussi qui ont organisé l'événement avec le soutien du Conseil régional et de la ville de Digne-les-Bains. Et puis, finalement, c'est vraiment pour répondre au mieux à l'enjeu que représente l'alternance dans notre département. Ben, en fait, c'est une occasion à pas manquer, hein, pour tout public, c'est ouvert à tout le monde, hein, parce qu'on peut rencontrer vraiment les principaux acteurs de l'alternance. Donc, on vous a dit, il y aura les centres de formation, les organismes de conseil à l'orientation à l'emploi, les organisations professionnelles. Tout ça, c'est vraiment pour construire un vrai projet professionnel, notamment par le contrat donc d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Alors, pour contacter, c'est simple. On a donc nos partenaires de l'UDE 04, Pôle emploi, Cap emploi et la mission locale. Vous pouvez donc directement appeler vos conseillers ou alors vous verrez sur notre site internet l'événement. Il y a des affiches et des flyers partout dans le 04. Et ce sera sur notre site internet, donc missionlocale04.org. L'objectif du forum, c'est donc de promouvoir l'alternance et de finaliser concrètement des recrutements multisectoriels avec au programme donc des offres de contrats d'apprentissage et de professionnalisation. C'est ouvert à tout public et il y aura donc plusieurs espaces organisés par filière qui regrouperont donc les centres de formation, les fédérations professionnelles ainsi que les opérateurs de compétences. Il y aura le secteur santé, services à la personne, le BTP, l'hôtellerie, restauration et le métier de bouche, l'agriculture, forêt, paysage, l'industrie, le tertiaire, le tourisme et l'animation. C'est un énorme forum. Et puis il y aura aussi le transport logistique et puis il y aura des espaces aussi transversaux qui seront dédiés donc au logement, à la santé, à l'handicap, à la mobilité. Il y aura aussi des casques virtuels. Et c'est vrai que ce forum ne serait pas aujourd'hui mis en place si on n'avait pas nos partenariats qui sont aujourd'hui très forts. On parle bien sûr de Cap Emploi, Pôle Emploi, l'UDE. Je remercie aussi le soutien de la région, de la ville de Digne, de la préfète. Il y aura du monde à cet événement et sans eux, on n'en serait pas là.
Espoir Aidant, une plateforme de soutien pour tous les aidants.
C'est une structure inédite et qui peut s'avérer très utile. L'association Espoir 04, que dirige Isabelle Simeret, a ouvert une plateforme de soutien et d'accompagnement aux proches aidants. Située à la maison de santé de Manosque, la Vista, 260 avenue Blaise Pascal, la structure affiche une vocation départementale. Soutenue par le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence et avec des fonds européens, cette plateforme expérimentale s'intéresse directement aux personnes qui viennent en aide ponctuelle ou régulière à des personnes fragilisées, et ce, à titre non professionnel. Personnes âgées ou handicapées, victimes d'accidents ou de maladies, c'est souvent au cœur du milieu familial que se fait le premier soutien. Aider un proche n'est pas évident et demande parfois une présence constante. On estime à 11 millions les proches aidants en France et la médecine et l'hôpital ne peuvent pas tout. D'où l'idée d'Espoir 04 d'ouvrir cette plateforme qui a pour mission de prévention et d'intervention auprès des proches aidants, mais aussi d'identification de l'offre existante sur les territoires pour promouvoir la coopération entre professionnels et enfin de recommandations envers les personnes concernées. L'ambition de l'association est de mener une action concertée au service de tous les proches aidants pour qu'ils puissent vivre leur propre vie tout en soutenant et aidant leurs proches. Espoir aidant fonctionne à titre expérimental pendant une durée de 16 mois, puis une évaluation avec les services publics, État et département décidera de la suite de l'action. À l'origine de cette idée, Georges Gégaud, qui préside Espoir 04, une association à qui l'on doit entre autres actions la maison L'Aurore à Manosque, qui héberge en internat des personnes souffrant de troubles psychiques. Enthousiaste, le dynamique président répond à mes questions. Georges Gégaud, avant de parler de l'actualité d'Espoir 04, un rappel sur votre association.
Un rappel sur notre association, nous avons vécu quelques années là depuis 2019 avec le Covid et heureusement avec toutes les précautions qu'a pris notre directrice, nous n'avons pas été touchés par le Covid. Nous avons vécu l'année dernière une année un peu perturbée au point de vue social, mais bon, une équipe a été reformée depuis la fin de 2021 et les débuts de l'année 2022 et aujourd'hui nous avons une équipe qui est une équipe en devenir, mais qui est une équipe qui travaille ensemble, qui communique et qui nous fait à l'heure actuelle un travail remarquable.
Quel est le sens d'Espoir 04 ?
Le sens d'Espoir 04, c'est d'abord d'accueillir des personnes en situation de handicap psychique, des schizophrènes, des psychoses, des dépressions, il y a au moins une quinzaine de pathologies en ce qui concerne le handicap psychique. Et depuis la fusion que nous avons conduite avec l'association Saint-Vincent, un foyer d'accueil et de vie de Man, nous avons aussi des personnes, disons, qui ne sont pas forcément des psychiques, mais parfois il y a du psychique qui se mélange. Et donc nous sommes multi handicap.
L'un des centres d'Espoir 04, c'est la maison L'Aurore à Manosque ?
Oui, évidemment, c'est la maison L'Aurore qui est à l'heure actuelle à ses capacités complètes, avec 22 accueils en internat et 3 accueils de jour. Voilà, 25 personnes pour un peu moins de 19 ETP de salariés.
Donc effectivement, une équipe attentionnée. Vous-même, vous êtes président de cette association depuis déjà pas mal d'années, et vous nourrissez un projet qui est déjà même sur les rails.
Oui, ben Espoir 04, j'en suis le créateur en 2005. Comme si on avait une appréhension de ne plus avoir la même activité, donc puisqu'il n'y a plus de place pour créer quelque chose sur le territoire d'Espoir 04 maintenant. Et donc, on a pensé qu'il y avait une catégorie de personnes dans notre société qui étaient oubliées et méconnu de tous. Ce sont les aidants qui, au quotidien ou par des menus services, quelle que soit la forme d'un aidant, un aidant est toujours une personne très importante auprès d'une personne aidée. Et en plus, on arrive à des situations aberrantes, surprenantes, où c'est la personne aidante qui a des difficultés et qui ne peut plus accomplir sa mission. Et donc, on rencontre des situations de catastrophe, dans des coins reculés de notre département, puisque notre département est quand même très rural et loin d'agglomérations importantes. Et donc, nous avons imaginé avec notre directrice à Espoir 04 de créer un service qui va s'appeler Espoir Aidant.
Comment est-ce que ça va se passer ?
Eh bien, nous construisons à l'heure actuelle, puisqu'on a commencé mais c'est pas terminé, une plateforme de référencement de toutes les situations, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les situations qui ne présentent aucune difficulté à l'heure actuelle, celles qui en présentent, à travers les réseaux sociaux, psychologues, infirmières à domicile, les élus locaux aussi sont des prescripteurs importants, et donc toutes ces situations-là, nous les répertorions sur une plateforme de façon à en avoir une connaissance au plus proche. Nous allons sur le terrain et donc dès l'instant où une personne appellera Espoir Aidant, nous serons à même de lui porter secours dans un délai très très bref.
Vous avez dit que c'est à l'échelle départementale que ça se passe, c'est-à-dire de Corbières jusqu'à Lubaye et puis du Pays de Badon jusqu'à Castellane?
Absolument. L'ensemble du département du 04, qui fait quand même 6900 km², avec une densité de population qui est de 24 habitants au km² à l'heure actuelle, extrêmement faible. Je crois qu'on doit être le deuxième département à la plus faible densité d'habitants au km², derrière la Creuse, je crois. Hein. Et donc, c'est vrai que d'aller vers, c'est un service, compte tenu de la situation que nous vivons à l'heure actuelle, avec les matières premières, et un système coûteux, mais indispensable quand on veut être efficace dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer.
Comment est-ce que vous allez faire savoir ce nouveau service ?
Le faire savoir, bien sûr, c'est par là qu'on a commencé. On a organisé une conférence de presse, ancienne méthode, et donc finalement qui n'a pas donné beaucoup de résultats. Et nous avons vite changé notre façon d'opérer. Et donc nous avons contacté la presse écrite notamment et audiovisuelle également, qui sont à notre disposition sur les Alpes de Haute-Provence. Manosque, bien sûr, avec HPI, la Provence. On est allé aussi vers le Dauphiné Libéré, vers Nice Matin, et puis FM d'ici.
Et Fréquence Mistral désormais.
Et Fréquence Mistral maintenant à partir d'aujourd'hui, donc où je donne ces informations à notre journaliste préféré.
Merci Georges. Georges, justement, revenons quand même à ce dossier important. Je suppose que vous avez des soutiens techniques, voire financiers.
Techniques, nous n'en avons pas besoin, parce que nous pensons que nous maîtrisons toutes les techniques possibles de l'aide aux personnes en difficulté, mais bien sûr, des moyens financiers, nous avons besoin de financiers. Et donc, le conseil départemental du 04 a lancé un appel à projet auquel nous avons répondu, un peu trop haut en budget. Et donc, nous avons revu notre copie pour nous adapter au fonds européen Pitem Prosol Senior dont le conseil départemental dispose. Et le conseil départemental lui-même a abondé les sommes mises à disposition. Et donc, nous sommes toujours dépendants du conseil départemental. Mais il se passe aujourd'hui un autre phénomène. C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé nationale, mais donc celle du 04, en particulier, derrière un système de secours aux personnes atteintes par le Covid qui s'appelait le 360 Covid, le 360 étant un numéro de téléphone pour la France entière, et il y avait toujours quelqu'un qui était à même de répondre, d'orienter, mais au moins déjà d'amener un début de solution à l'appel. Et donc aujourd'hui, le Covid étant un peu derrière nous, et c'est tant mieux, l'ARS donc a envisagé de créer une communauté 360 cible, donc qui est un projet copier-coller au projet que nous avons déjà en fonction à la Maison de la Santé Vista Sud 04, donc en face de la SOR à Manosque, donc tout le monde connaît un peu le quartier, dans la zone industrielle Saint-Joseph, et donc nous avons là des espaces qui nous permettent de travailler dans de très très bonnes conditions. Et nous avons bien sûr eu besoin d'une personne qui soit en capacité de coordonner tout ça. Nous avons eu beaucoup de difficultés en début d'année, mais nous avons finalement recruté une personne qui était en CDI, assistante sociale, et qui a démissionné de son CDI pour venir chez Espoir 04 en CDD, tellement elle est motivée par le sujet. Je pense que nous avons trouvé là une personne un peu idéale.
Ce dispositif est déjà opérationnel, Georges.
On a commencé déjà au mois de janvier, février, avec les petits moyens que nous avions, donc de répondre à des appels que nous avons déjà eus. Ça va démarrer donc à partir de lundi prochain, je crois que c'est le 19 avril, et donc là on va très très vite rejoindre une vitesse standard de fonctionnement sur l'ensemble du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Si on veut en savoir plus, pour avoir des renseignements.
Oui, bien évidemment. Il y a déjà un numéro de téléphone et une adresse mail. Le téléphone, c'est le 04 65 10 04 54. Et un numéro aussi de portable, de mobile, 06 31 88 81 52. Et l'adresse mail, donc, puisqu'il y a certaines personnes qui sont capables de l'utiliser, c'est espoir aidant au pluriel en minuscule et tout attaché, @espoir04.fr.
Visite de chantier au plan d'eau avec la municipalité d'Innoise.
C'est un premier rendez-vous du maire, une action de proximité mise en place par la ville de Digne-les-Bains. Après les élections du mois de décembre dernier, Patricia Granet-Brunello, entourée de techniciens qui œuvrent pour la mise aux normes européennes du plan d'eau, a rencontré Dignoises et Dignois pour répondre à leurs questions sur l'avancée des travaux. Ce chantier qui a connu des dégradations valorise un équipement attractif de la cité préfectorale, un rendez-vous satisfaisant et qui en entraînera d'autres. Patricia Granet-Brunello, maire de Digne-les-Bains, puis Gilles Rapin, maître d'œuvre du chantier, et enfin Laetitia Van de Portal, paysagiste conceptrice, atelier Azimut, répondent aux questions d'Odile Frison.
Patricia Granet, maire de Digne-les-Bains, aujourd'hui c'est un premier rendez-vous, une première action de rendez-vous du maire qui se fait avec une rencontre avec les Linois.
Oui, en effet, on a souhaité débuter ce premier rendez-vous au plan d'eau, c'est-à-dire de se dire que c'est sur les chantiers en cours qu'il était intéressant de rencontrer les citoyens pour leur faire visiter le chantier et pour leur expliquer tout ce qui s'y fait, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce plan d'eau, beaucoup de rumeurs, et donc c'était important de donner toutes les explications et puis aussi de discuter de choses et d'autres concernant toute la vie du quartier qui entoure le plan d'eau.
Alors ce plan d'eau s'en sort bien puisqu'il y a eu des dégradations.
Oui, il y a eu des dégradations complètement folles et incroyables, quoi. On va se demander ce qui se passe dans la tête des gens, mais qui ont été réparées sans souci par l'entreprise. Et donc le chantier a pu continuer et on espère bien ouvrir à la mi-juin comme c'est prévu.
On peut peut-être déjà dire que c'est le plus beau plan d'eau du département.
Bon, mais merci de me le dire, oui. Moi, je prends ces beaux compliments. Et je pense que ça fait partie du patrimoine dignois. Et puis, on a tout fait pour l'embellir. Et j'espère que les dignois et les personnes qui viendront en profiter l'apprécieront à sa juste valeur, oui.
Vous allez présenter les projets de la commune.
C'est plutôt être là avec les citoyens et puis répondre aux questions diverses et variées qui peuvent être ne pas concerner que le plan d'eau. C'est plus dans l'interaction d'être avec les habitants et de répondre à leurs questions. Je pense qu'après les projets, on les présentera sur des réunions plus institutionnelles, des réunions de quartier, ou alors sur des réunions peut-être aussi on se pose la question à plus grande échelle, par exemple une réunion par semestre au Palais des Congrès, par exemple, pour aborder un peu tous les sujets. Mais c'est vrai qu'avec l'intermède de décembre, on est encore en train de courir à tout remettre d'aplomb, donc il faut qu'on finalise ça et qu'on repasse vraiment dans cette sérénité de travail et puis de venir plus souvent aussi sur des grandes rassemblements vers les Dignois. La proximité comme ça, la réunion de quartier, puis des grandes réunions un peu sur des sujets et des projets.
Aujourd'hui, vous êtes contente, il y a vraiment du monde qui est venu s'intéresser aux travaux du plan d'eau.
Ah oui, il y a beaucoup de monde là et je suis ravie. Vraiment, mais des personnes très très intéressées et qui posent des questions très très pertinentes et qui ont les réponses justement sur les changeurs, sur toutes ces choses où on a entendu tant de choses fausses.
Merci.
Merci à vous.
Je suis Gilles Rapin du bureau d'études Serrette, maître d'œuvre dans un groupement avec Atelier Azimut, l'architecte Eric Gernès et le bureau d'études Béba pour les structures. Donc l'opération, c'est une mise en conformité d'un ancien plan d'eau créé en 1990 pour se mettre en conformité avec le décret 2019-299 qui est une nouvelle directive concernant les baignades artificielles. Pour résumer, le système retenu est un système ouvert où on prend de l'eau propre dans la nappe, on renouvelle en permanence le bassin. L'originalité, c'est qu'on réchauffe l'eau par un échangeur de chaleur, ce qui permet de renouveler beaucoup l'eau tout en gardant une bonne température. L'échangeur de chaleur capte de l'eau sur le plan d'eau de pêche en aval, qui est à 24-25 degrés. On rejette l'eau froide dans la Bléone vers 15 degrés. Et on échange les flux sur la baignade. On rentre de l'eau à 14 degrés de nappe et on la met dans le plan d'eau à 20 degrés. Donc c'est un système astucieux qui permet avec 8 kW de pompage de créer 1600 kW de chaleur, donc avec un gain énergétique important. Concernant l'opération, il y a des systèmes de comptage qui permettent d'automatiser le comptage des gens qui sortent et qui rentrent en instantané pour respecter une jauge de une personne pour 10 mètres cubes, ce qui fera 600 personnes pour les 6000 mètres cubes de la baignade. Je crois que j'ai à peu près résumé l'opération.
Donc le plan d'eau sera fermé la nuit, comment ça va se passer?
Dans le décret, il y a une obligation d'arrêter les animaux sauvages et domestiques. Donc on est obligé de mettre une clôture autour de l'emprise qui sera fermée la nuit. Et pareil, il y a des portillons et des comptages pour savoir l'ensemble des gens sur l'emprise globale. De toute façon, on est obligé par la loi de mettre une clôture pour assurer la qualité de l'eau.
Laetitia Van de Portage, je suis donc paysagiste concepteur pour Atelier Azimut. Je suis basée à Sisteron depuis une vingtaine d'années déjà. Et donc là, je suis missionnée en tant que bureau d'études pour travailler sur les espaces paysagers et tous les travaux de surface du plan d'eau.
Donc au niveau paysager, il va y avoir donc beaucoup de plantations.
Oui, alors nous avons considérablement ombragé le site qui auparavant était vraiment beaucoup trop chaud en période estivale. Effectivement, 23 arbres ont commencé à être plantés et presque tout est fini. Alors ça a été assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de réseaux en dessous. Donc c'est un beau challenge et en plus il y a la question de sécurité et de surveillance des maîtres nageurs. Voilà, donc tout a été pris en compte pour à la fois ombrager suffisamment mais permettre aussi la sécurité, la visibilité des maîtres nageurs et la présence de réseaux en dessous. Vous avez compris que la technique était importante, voilà. Il y a aussi donc des haies qui vont être plantées, notamment de chaque côté de la grille de clôture, qui sert à fermer le parc vis-à-vis des animaux surtout, et puis surtout aussi comptabiliser le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Et donc de chaque côté de cette clôture, nous aurons une haie vive et fleurie, avec à la fois des arbustes caducs, des arbustes persistants qui fleurissent à différentes périodes de l'année, de chaque côté, et au final, cette clôture sera quasiment invisible. D'autre part, il y a à peu près 4800 m2 de surface enherbée qui servira de plage, ombragé ou ensoleillé, hein, il y a les deux. La moitié de cette surface sera ensemencée et donc ne sera accessible qu'à partir du mois de juillet, à peu près si les conditions météorologiques le permettent. Et l'autre moitié, donc, qui est là où nous sommes devant le restaurant et l'accès principal, sera recouverte de gazon en plaque pour pouvoir permettre d'ouvrir dès le 11 juin et avoir un piétinement des usagers dès l'ouverture. Ensuite, au niveau du bassin, nous aurons aussi un petit système de clôture très léger et naturel avec des cordelettes pour éviter que les gens n'aillent directement dans le bassin et les inciter à passer par des pédiluves. Donc pour intégrer visuellement ces petites barrières, on va aussi planter tout du long du bord du bassin des espèces plus basses, des graminées, des plantes vivaces. Et les équipes aussi de la mairie se sont joints à notre effort d'embellissement, puisque autour de chaque pédiluve, là c'est l'équipe municipale, donc les services techniques, qui vont faire leur propre plantation d'espèces un peu plus exotiques, comme celle que nous avons devant le restaurant.
Et vous parliez de jets d'eau, hein, c'est ça, centrale?
Oui, donc il va y avoir un grand jet d'eau à peu près dans le tiers inférieur du bassin, Mais ça sera quand même assez impressionnant et je pense que ça va vraiment plaire au public. Et sinon, nous avons les petits jeux d'eau cette fois-ci, avec des jets au sol de différentes hauteurs, des différentes puissances. Et puis des jets d'eau aériens avec des animations, des seaux qui se vident, des parapluies qui coulent, qui tournent, qui vrillent. Tout ça pour le plaisir des tout petits, mais aussi des grands. Et c'est vraiment important. Ça a été un souhait de la municipalité de vraiment attirer toutes sortes de publics sous ces jeux d'eau et pas seulement les tout petits enfants.
On rappelle que ce plan d'eau restera gratuit comme il l'a toujours été.
Exactement, ça c'est dès le départ. Le plan d'eau est gratuit, il le restera. Les clôtures ont été mises en place uniquement pour permettre d'empêcher les animaux sauvages mais aussi les chiens de souiller l'eau. Et puis quand on est dans des périodes de confinement, de semi-confinement, de pouvoir compter les gens de manière à ce que les gens ne soient pas serrés les uns contre les autres. C'était uniquement dans ce but-là.
Trail de Haute-Provence, l'aventure grandeur nature.
C'est un événement sportif, convivial et solidaire qui rassemble et fédère un territoire. Le Trail de Haute-Provence est une belle occasion de partager un patrimoine naturel et culturel en plein cœur de la Haute-Provence. Les participants avalent des kilomètres dans les paysages sublimes du pays de Forcalquier. Les parcours du THP sont 100% nature, 200% plaisir. Les tracés alternent avec des tronçons très marqués par le relief, suivis par des parties rapides. Pour cette 9e édition, plusieurs épreuves sont au programme du week-end du 27 au 29 mai prochain, avec deux épreuves inscrites au calendrier du Challenge des Trails de Provence, ainsi qu'une course solidaire et des courses enfants. Pour les mois à venir, au planning des rendez-vous, le THP Winter, version hivernale de la course, ainsi qu'une ascension de la montagne de Lure par la route avec le THP Running. Vincent Gigliani, l'organisateur et sportif accompli, présente l'épreuve et revient sur la création du Trail de Haute-Provence au micro de Chris Alessandri.
En fait, je viens du sport à la base depuis très longtemps. J'ai beaucoup couru sur la route et puis au mois de janvier 2011, j'ai décidé de me mettre au trail pour pouvoir participer à la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, qui est une course mythique qui propose un parcours de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure des sorties pour m'entraîner pour cette Diagonale des Fous, j'ai découvert les alentours de Forcalquier. Et puis, j'ai commencé par des sorties de 10 km et puis de 20 km. Et puis après, dans la préparation, la sortie de 40 km, c'est presque une sortie normale, ce qui paraît un peu fou. Et en même temps, en faisant 40 km, on est au sommet de la montagne de Lure. Donc quand j'étais là-haut, il a bien fallu que je me dise comment rentrer. Et c'est comme ça que la boucle des sentiers du THP est née, puisque il fallait bien que je revienne à Forcalquier. J'ai emprunté le côté est de la montagne de Lure. Je suis rentré par Saint-Étienne-les-Orgues, Fontienne, les Mours, pour atteindre Forcalquier. C'est comme ça que la boucle a été bouclée et qu'on a mis en place les premiers parcours du Trail de Provence.
Vincent, vous l'avez dit, un décor vraiment indispensable qui s'y prête complètement. Nous sommes sur le pays de Forcalquier, la montagne de Lure, sur la commune de Bannon également. Deux petits mots là sur le décor, ce qui vous entoure, cet environnement auquel vous tenez.
C'est un paysage, d'abord il est très varié, au cœur de la Provence, permet en fait, quand on est justement sur ces crêtes de Lure, d'avoir une vue à 360 degrés, l'arc alpin au nord, et puis on a la vallée de la Durance au sud. Quand la visibilité est bonne, on voit jusqu'à la Sainte-Victoire, c'est magique.
Ça fait combien de participants qui sont lâchés comme ça dans la nature?
Ça a évolué au cours des années, puisqu'on avait commencé à 505 participants en 2014, et là, en octobre dernier, on était à 3200 inscrits. Alors avec les conditions météorologiques qu'on a connues, qui étaient plus que dantesques, on avait 3200 inscrits, 29 nationalités représentées, et 93 départements français.
Est-ce que tout le monde peut se lancer sur les sentiers du Trail de Haute-Provence?
Le Trail de Haute-Provence, il a été conçu pour être ouvert à toutes et à tous. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des éditions, on a proposé de plus en plus de distances. Donc le week-end de l'Ascension prochain, du 27 au 29 mai prochain, on aura la 9e édition au programme 8 parcours adultes de 8 km à faire 160 km et on aura 4 parcours enfants pour tous les âges jusqu'à 15 ans en fait. Et c'est la volonté du Trail de Haute-Provence depuis le départ de vraiment proposer un événement à toutes et à tous pour pouvoir venir se dépasser, pour pouvoir partager des émotions en famille, entre amis, avec les collègues du club, avec les collègues de travail. Il y a vraiment des distances pour toutes et pour tous, et donc de pouvoir s'épanouir ou se divertir ou se dépasser sur les sentiers du THP.
Vincent Guiliani, autour de vous, il y a toute une équipe là qui œuvre, c'est tout un travail en amont également qu'il faut réaliser, que ce soit le balisage, l'anticipation, prévoir les points de ravitaillement et autres, véritable investigation aussi que vous faites sur le terrain.
Aujourd'hui, on compte presque une trentaine de chefs de poste qui, en fait, rassemblent leurs équipes, et ce qui permet d'avoir à peu près 250-300 bénévoles sur le week-end pour occuper tous les postes, effectivement, que ce soit du balisage, des débalisages, des ravitaillements, des signaleurs, de l'accueil coureur sur le village THP, sur le montage et le démontage du village, enfin tous ces postes-là qui sont nécessaires pour que l'événement se tienne dans les meilleures conditions et que l'accueil des participants, des accompagnants, des partenaires, des prestataires puisse se faire dans les meilleures conditions.
Alors ce qui vous caractérise aussi, hein, c'est vraiment ce choix impressionnant de parcours dont vous avez parlé, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, pour survoler les parcours.
Alors, dans le détail, on a un des piliers fondateurs donc, de l'événement qui est le partage des valeurs du sport avec le plus grand nombre, et notamment les enfants. Donc on a les courses enfants qui seront prévues le vendredi à partir de 18h. On propose 4 parcours pour toucher la tranche d'âge de 0, on va dire, jusqu'à 9 ans inclus, puis de 10 ans à 11 ans, puis de 12 à 13, puis de 14 à 15, parce qu'on a vraiment envie que les enfants soient partie prenante de cet événement. Et d'ailleurs, on est passé de 10 enfants en 2014 à 370 en 2019. Et pour pouvoir arriver à avoir autant d'enfants, on s'est fait accompagner par la Cordelière. C'était avant l'OMJS de Fort-Calquier, maintenant ça s'appelle la Cordelière, qui fait un travail formidable au niveau des écoles et des toutes les structures, on va dire, scolaires du pays de Fort-Calquier, Montagne de Lure. À 22h, on aura un 160 km. On a revu notre 150 km, on a rajouté 10 km, on s'est dit que autant faire 10 km de plus pour apprécier encore plus le paysage de la Montagne de Lure. Et c'est effectivement un parcours qui va permettre de passer à Limans. On va mettre en avant le nouveau site de Vierre qui est sur la commune d'Ong, qui vient d'être réhabilité au mois d'octobre dernier. On va aller à Lardier, et vous avez mentionné tout à l'heure Bannon. On va effectivement, Bannon est une grosse étape pour ce parcours, puisqu'on a un gros ravitaillement avec un repas, une base vie. Ensuite, on va aller à Montsalier, on va aller au Contadour, on va aller attaquer la ligne de crête, et là on a 22 km de ligne de crête proposée pour ce 160 km.
Vous êtes à combien?
On est en moyenne à 1600, mais le point culminant de la montagne de Lure, c'est 1826 mètres. On est aussi à quelques encablures d'une grosse difficulté, puisque à ce moment-là, on bascule dans la vallée du Jabron. Parce que ça nous permet justement, avec ce parcours de 160 km, de pouvoir fédérer 3 communautés de communes. Dans ce programme des parcours proposés par le Trail de Haute-Provence, on a un parcours solidaire qui est le THP solidaire. Le départ est à 9h et c'est vraiment ouvert à toutes et à tous. On peut le faire en courant, on peut le faire en marchant, on peut le faire à n'importe quel âge. Il faut savoir que 50% des frais d'inscription seront reversés à la Fondation Maladies Rares. Et depuis sa création, le Trail de Haute-Provence a déjà reversé plus de 10 000 euros à soit la Ligue contre le cancer, soit à la Fondation Maladies Rares. Et du coup, cette année, la 9e édition du Trail de Haute-Provence aura lieu le week-end de l'Ascension, donc du 27 au 29 mai, le dernier week-end du mois de mai. Et ça sera donc départ de toutes les courses à Fort-Calquier.
Alors Vincent, les inscriptions pour les dossards, comment est-ce qu'on doit faire?
On va sur le site de l'événement, www.mythp.fr, et à partir de là, on sélectionne l'événement Trail de Haute-Provence. On a toutes les informations sur l'événement et on peut bien évidemment s'inscrire.
Des randonnées originales avec Arnaud Poupounot.
Pour lui, Arnaud Poupounot, c'est la randonnée de la tête et des jambes. La balade vers des itinéraires nature classique, patrimoine, faune, flore, paysage, mais aussi vers des producteurs locaux. Des sorties qui se concluent souvent par des dégustations très appréciées. Il est également versé vers la littérature, admirateur de Jean Giono et de René Frény. Il organise des sorties thématiques avec la librairie Le Bleuet à Bannon. Et Arnaud Poupounot propose également des randonnées lointaines aux confins du Pôle Nord pour un dépaysement garanti. Une interview d'Olivier Mouly.
Arnaud Poupouneau, vous proposez une activité à la fois de découverte, de pleine nature et littéraire.
Tout à fait. J'habite dans le village de Bannon, qui est un lieu propice pour les départs de randonnée autour de Bannon jusqu'à la montagne de Lure. Les différents thèmes abordés sont la découverte du patrimoine faunistique, de la végétation également, et puis également l'histoire de notre pays à travers les bergeries notamment, et puis beaucoup de randonnées littéraires également avec l'enfant du pays, Jean Giono.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'allier ces deux activités, à la fois le livre et la nature ?
Je suis un passionné de littérature depuis mon plus jeune âge et je dois dire que c'est notamment la librairie Le Bleuet en fait de Bannon qui m'a complètement convaincu et donné envie de me lancer dans ce projet-là. Et l'écrin de la nature des environs de Manosque, de Bannon, est parfait pour lire les romans de Jean Giono.
À quel public s'adressent vos sorties ?
À tout public. Il arrive qu'on parte avec des scolaires à partir du CM1, CM2. Donc là, on utilise les œuvres, notamment L'homme qui plantait des arbres, les œuvres les plus accessibles de Jean Giono. Ensuite, il s'adresse à tous les amoureux de la littérature, qu'ils soient ou non connaisseurs de l'œuvre de Jean Giono. Après, on se sert de lieux où l'auteur a supposé écrit ses livres, ou du moins s'en est inspiré.
Ça peut être aussi bien des enfants que des adultes, c'est ça ?
Absolument. Les adultes, qu'ils soient connaisseurs ou pas hein, de l'œuvre de Giono, sont toujours férus de découvrir ce qu'un auteur si fameux que Jean Giono a pu raconter avec cet environnement que tout le monde connaît et qui lui transforme en moment unique grâce à son talent.
Au milieu de paysages parfaitement exceptionnels.
Ah, tout à fait. Notre région est d'une richesse absolue en matière de nature, de paysage. Il suffit de partir de la vallée de la Durance, Manosque, avec ses grands plateaux de Valensole, qui sont splendides. Et à l'opposé, nous pouvons souvent terminer ces randonnées sur le sommet de la montagne de Lure, qui joue un rôle très important dans l'œuvre de Jean Giono.
Pour ce qui concerne justement ces sorties littéraires, vous êtes exclusivement basé sur l'œuvre de Giono ou vous avez parfois d'autres auteurs ?
Alors non, absolument, tous les auteurs sont les bienvenus sur les randonnées littéraires, qu'ils soient contemporains ou classiques. Il y a quelques jours, nous avons fait une rando littéraire avec la librairie Le Bleuet, avec un auteur du coin qui s'appelle René Frény. Moi, je suis tombé dans la littérature quand j'étais enfant grâce aux romans de Stevenson et de Jack London notamment. Ils sont invités également dans nos randonnées littéraires et voilà, c'est vraiment au gré de mes envies et on essaie de faire un programme conjoint avec la librairie pour coller à son actualité la plus proche avec ses rencontres qui ont lieu tous les samedis matins avec des auteurs.
Toutes ces sorties sont-elles littéraires ou vous faites également des randonnées, j'allais dire simplement, de découvertes ?
Ah oui, je fais beaucoup de randonnées de découvertes de la nature et notamment j'essaye d'organiser des rencontres avec des acteurs, des producteurs locaux que j'ai appelés soit des randonnées gourmandes ou des randonnées terroirs. Donc, ils sont des randonnées au départ de Bannon ou des villages aux alentours. On marche quelques heures, en général une matinée. Et en fin de matinée, on va rencontrer un producteur de chèvres ou un maraîcher bio ou un brasseur de bière. Voilà, des acteurs locaux. Et ça va permettre cette rencontre avec les gens. Et cette rencontre se fait par le biais de la randonnée. Et ensuite, on participe à la découverte du lieu et ça se finit toujours par une petite dégustation, voire un bon repas sur les lieux. Et puis ensuite, les autres randonnées classiques de nature, où on va observer les bergeries en pierre sèche de la montagne de Lure. On peut aller observer les animaux sur les crêtes de Lure également.
Quels animaux, par exemple ?
Là-haut, on voit régulièrement le matin ou le soir des chamois qui viennent tranquillement se reposer et brouter l'herbe sur les crêtes. On voit beaucoup de vautours fauves, quelques rapaces également, des circadiens le blanc, beaucoup de chevreuils, des renards. C'est très agréable.
Vous proposez plusieurs durées pour ces randonnées. Ça peut aller d'une randonnée de quelques heures, voire quelques jours.
Tout à fait. Les randonnées sont d'une demi-journée à la journée, toujours sur un même thème littéraire ou sur la nature ou le patrimoine. Et il m'arrive d'organiser des séjours d'une semaine également dans notre région, toujours sur les mêmes thèmes de littérature ou sur la lavande quand c'est la période, ou à la découverte des randonnées gourmandes où tous les jours nous allons à la rencontre de ces fameux producteurs. Il y en a vraiment pour tous les âges, tous les goûts et surtout aussi tous les niveaux. Tout le monde est le bienvenu.
Des groupes de combien de personnes environ ?
Lorsqu'on part à la journée, demi-journée, ça peut aller jusqu'à 15-20 personnes, sans problème. Par contre, lorsqu'on est sur une semaine de randonnée, on se limite à la capacité d'un minibus, c'est-à-dire 8 personnes.
Que reflète le nom que vous avez choisi pour votre entreprise, les artisans de la randonnée ?
Les artisans de la randonnée, pour moi, est un nom très important. Et avant tout, je souhaitais que les gens comprennent tout de suite, immédiatement, ce qui les attend avec Artisans de la Randonnée, à savoir que tout ce que je propose, c'est fait par moi-même, avec des acteurs locaux, et j'essaye de décortiquer un petit peu tout le flot des offres touristiques de masse pour aller vraiment au plus près des gens, montrer que je veux vraiment favoriser cette rencontre avec les gens. Toutes mes randonnées, tous mes circuits sont vraiment faits main, par moi-même.
Vous êtes tout seul à faire ces sorties ou vous êtes plusieurs ?
Non, je suis tout seul. Je suis tout seul artisan de la randonnée. C'est Arnaud Poupounot pour le moment. Voilà.
Arnaud, vous proposez également des sorties à l'extérieur du territoire du 04, mais là, réellement loin de l'extérieur.
Oui, je suis guide polaire depuis 23 ans maintenant. J'ai eu la chance de découvrir ces régions un peu par hasard avec la Norvège. Je suis tombé complètement sous le charme de cette nature si brute et si généreuse qui offre l'Arctique en général. Donc là, il s'agit pas de demi-journée, hein, ce sont plutôt des séjours d'une semaine à deux semaines où je vous emmène découvrir ma terre de prédilection qui est l'Islande et la Russie également. Voilà, et la variété de ces paysages.
Vous avez un site, une page Facebook, un email pour vous contacter ?
Oui, tout à fait. J'ai un site qui est en construction en ce moment et qui devrait voir le jour d'ici quelques jours qui s'appelle artisandelarandonnée.com. Artisan au pluriel. Et puis sinon, j'ai une plateforme également qui s'appelle Direct Mountain, sur lequel on retrouve Arnaud Poupounot et tous ses circuits. Voilà. Et puis évidemment, la page Facebook Artisan de la Randonnée aussi également qui existe, sur lequel vous êtes absolument conviés et le bienvenu.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie et à bientôt.